Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Mes amis du bureau parlementaire du journal sont là. Patrick Bellerose et Marc-André Gagnon, accompagnés de leur patron Rémi Nadeau, chef de bureau. Bonjour.
Bonjour, Antoine.
On commence par parler de cette visite vraiment importante quand même du premier ministre français. Message très fort sur la laïcité lors de son discours à l'Assemblée nationale. Qu'en avez-vous pensé, Patrick, d'abord?
Écoute, Antoine, quelle hauteur, quelle classe. Ça faisait du bien d'entendre un discours comme ça qui prenait du recul, qui parlait de l'histoire, des liens qui unissent la France et le Québec. Il y a une ligne, bon, c'est emprunté à Eugène-Étienne Taché, là, l'architecte du Parlement ici, mais qui disait « Né sous le lys, je crois sous la rose ». C'était beau, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des discours comme ça au Québec. Je pense que tout le monde a trouvé que c'était un vent de fraîcheur.
Mais factuellement, surtout, c'est faux. Mais en tout cas, on s'en reparlera.
On y reviendra. Surtout M. Legault, je pense que c'était de la musique à ses oreilles d'entendre parler de laïcité, de protection oui. française, d'immigration aussi.
Absolument. Marc-André.
Ouais, ben il y a toujours, je trouve, quelque chose de très éloquent avec les politiciens français. Donc, disons que ça change le mal de place d'une certaine façon. C'était clairement un événement. On le sentait aussi dans les corridors de l'Assemblée nationale. Moi et Rémi, on s'est installés au Salon Bleu quand même assez tôt là pour être certain d'avoir de bons sièges, n'est-ce pas? Et on voyait les députés fraterniser entre eux. Il y avait vraiment, c'est ça, une ambiance de fête, une fébrilité. Et on s'attendait à pas grand-chose, en fait, du discours de M. Attal. Et puis finalement, ben, il y avait quand même du piquant, je dirais.
Oui.
Alors, c'était
sur la laïcité, sur les GAFAM aussi, c'était très oui. fort comme message. Là. Puis ce oui. matin, on a entendu qu'il va y avoir un comité conjoint Québec-France là-dessus. Donc, oui, c'était très fort, effectivement, Marc-André.
Donc, il y aura des suites, je pense, à cette visite. Et c'était un événement, d'autant plus que la dernière fois qu'un premier ministre français s'était déplacé à l'Assemblée nationale, ben moi, j'étais même pas né. Alors, j'étais content de pouvoir vivre ce moment-là, quand même, de notre histoire parlementaire.
Rémi, est-ce que l'éloquence du premier ministre français tranchait avec le manque d'éloquence de notre premier ministre? C'est une question un peu chienne, là, mais je te la pose pareil.
Oui, bien, je veux dire. C'est sûr un peu, là, parce que comme Patrick a dit, il y avait de belles hauteurs, c'était vraiment agréable à entendre. Hein? C'était un beau discours de M. Attal. M. Legault était davantage au ras des pâquerettes, mais en même temps, d'aucuns diraient que c'est ça, que c'est, ça fait aussi le charme de M. Legault. D'ailleurs, des journalistes français confiés à notre collègue Geneviève Lajoie, oui. aussi, qui est en couverture, qu'eux, ils ont trouvé justement M. Legault vraiment décoincé là,
ouais,
par rapport,
c'est vrai, ben oui.
par rapport au style plus rigide de Attal. Sinon,
j'ai bien aimé sa petite blague sur l'accent. Il dit « Vous avez un drôle d'accent. »
Oui, mais sinon, juste pour souligner, on lui aurait reproché aussi si M. Legault, tout d'un coup, s'était transformé, avait essayé de faire un grand discours grandiloquent. On lui aurait reproché, on connaît le style, on serait dit « Ben là, franchement, c'est un peu ridicule. »
Ouais, exactement. Je pense aussi que M. Legault n'avait pas à jouer à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est correct. Sinon, pour ce qui est de M. Attal, je reviendrai sur le fait qu'il y avait quand même une prudence là, dans le choix des mots. Il n'a pas cherché... je pense qu'il a cherché, en fait, à éviter d'utiliser des mots qui auraient pu être interprétés d'une certaine façon, soit en faveur du camp des souverainistes ou en défaveur Bon. Alors, il a été prudent là-dessus.
Mais sur la laïcité...
Oui, sur la laïcité. Ça, il est allé à fond, il n'y a pas de doute.
On était au Salon Bleu, puis on a vu des libéraux qui ont refusé d'applaudir et refusé même de se lever parce qu'il y a eu une ovation à un moment donné.
Oui, ben exactement, c'est ça.
Je les ai notés, là. C'est Greg Kelly, Linda Caron et Désiré McGraw qui sont restés bien assis et qui avait l'air assez... Et Québec solidaire aussi a eu de l'hésitation.
On a senti l'hésitation chez QS aussi.
C'est ça. Ce que j'allais dire, les petits moments un peu de malaise, là, on pourrait dire beau malaise, c'est, ça a été en fait quand Paul-Saint-Pierre Plamondon aussi, lui, dans son moment d'allocution, a dit qu'il espérait qu'un jour, ce soit M. Attal qui puisse prononcer les mots « Vive le Québec libre ». Tu sais, M. Attal est... cherchait à regarder un peu ailleurs. Puis, tu sais, pour lui, c'était pas un moment, là, j'imagine, agréable parce qu'il devait faire en sorte de pas lancer de messages, même dans son langage corporel, j'ai l'impression, là-dessus. Et comme tu l'as fait remarquer, bien, pour ce qui est des libéraux, c'est quand il a été question de laïcité que ça a été le moment de malaise là, au Salon Bleu.
Il y a eu des absences surprenantes parce que je trouve que l'auditoire était un peu parsemé. Je veux dire,
c'était dégarni.
Clairsemé. Il y avait même le député dans lequel on est dans son comté, là, Étienne Grandmont, il n'était pas là. Marc-André, là-dessus, peut-être?
J'ignore la raison pour laquelle il était absent. Il y a aussi le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui était absent. Mais
il était à Paris.
Dans son cas, c'est ça, il y a une bonne excuse. Il est au Salon du Livre de Paris, où le Québec est comme un peu l'invité d'honneur là, cette année. En tout cas, les auteurs québécois sont en vedette. Donc, je pense qu'il y a une bonne excuse. Et sauf erreur, on n'a pas vu non plus la vice-première ministre Geneviève Guilbeault pendant son discours. Donc, il y avait effectivement quelques absents et on dit que les absents ont toujours tort.
On a texté Québec solidaire ce matin pour savoir pourquoi Étienne Grandmont et Ruba Gazal n'étaient pas là, puis la réponse a été ils avaient une assemblée de cuisine prévue depuis longtemps. Alors, voilà, le premier ministre vient, on va à une assemblée de cuisine. Alors, c'est un peu surprenant. D'ailleurs, Étienne Grandmont a fait des commentaires un peu particuliers cette semaine, hein, Rémi?
Oui, parce que, bon, lorsque les élus ont été questionnés sur la venue de M. Attal, lui, il a préféré, je trouve que c'est un drôle de choix, là, prendre des distances, en fait, avec le gouvernement Macron, qui juge de droite, trop de droite par rapport à ce que souhaiterait Québec solidaire. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne idée d'y aller de ce genre de commentaires-là, tout juste avant la venue du premier ministre français qui prend la peine de venir se déplacer en sol québécois. Je trouve que c'est un accroc diplomatique de la part de QS là-dessus.
Surtout de la part
J'ai fait commenter Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus, d'ailleurs, dans une entrevue qui va être diffusée dans les prochaines minutes. Oui, Patrick, excuse-moi.
Mais j'allais dire que c'est particulier de la part d'une formation souverainiste qui devrait chercher quand même, tu sais, à tendre la main au grand français, à s'assurer d'avoir un appui dans un éventuel gouvernement souverain, Québec souverain. Donc, on ne peut pas choisir ses alliés dans ce type de cas-là.
Il y a eu d'autres sujets, évidemment, traités sur la colline cette semaine, des sujets récurrents, hein, des sujets qui reviennent tout le temps. On reste avec toi, Pat, parce que tu nous as dévoilé que tu avais cette manchette-là hier, là, que Christian Dubé allait faire un geste pour les super infirmières. Ah, les super infirmières! Maudit qu'on en parle depuis quoi? 20-25 ans?
On en parle beaucoup, ça avance pas rapidement. Mais hier, c'était quand même une grosse nouvelle.
Une avancée majeure, là, je pense.
Oui, hein? Donc les infirmières praticiennes spécialisées, les super infirmières, comme on les appelle communément, vont pouvoir prendre en charge elles-mêmes directement des patients sans être encadrées par un médecin. On sait depuis quelques années, là, on a étendu, élargi leur champ de compétences, mais ils doivent toujours se référer à un médecin, être encadrés par un médecin. Ce ne sera plus le cas. Ce qui ouvre la porte là, à des vraies cliniques d'IPS, comme c'est le cas en Ontario, par exemple, et surtout ce qui amène des gens qui vont pouvoir s'occuper de patients, là, qui, tu sais, il y a tellement de Québécois, là, 630 000 au bas mot, 2,4 si on inclut tout le monde, qui n'ont pas de médecin de famille, mais là, désormais, tu vas pouvoir dire, j'ai au moins une super infirmière qui me suit. Et ce que M. Dubé expliquait, c'est que, en fait, c'est un peu le même niveau de service, parce que dans 95% des cas, l'IPS va pouvoir répondre à tes besoins. Et si c'est, on peut pas, si ça dépasse son champ de compétences, mais là, on t'envoie vers un médecin qui est affilié, qui est dans un corridor de service qu'ils appellent. Et là, tu vas pouvoir être pris en charge. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est une bonne nouvelle, c'est bien évident, tout le monde est content, mais mon Dieu, il était temps. Qu'est-ce qui fait que c'était si long si on réussit à faire ça juste par une décision administrative? Comment ça se fait qu'on l'a pas fait il y a plus longtemps? Comme je disais tantôt, les cliniques d'infirmières praticienne spécialisée en Ontario. Ça fait depuis le début des années 2000, donc 2006 environ, que ça fonctionne. On a souvent écrit pour dire, bien, écoutez, ça existe en Ontario. Il y a pas de frontière entre l'Ontario et le Québec. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas ici au Québec? Tu te souviens,
c'est la faute des médecins. C'est la faute des médecins omnipraticiens.
C'est la faute des médecins. C'est la faute aussi, je pense, des élus qui veulent pas nécessairement affronter les médecins sur ce terrain-là. Tu te souviens,
Rémi, là-dessus, ça fait longtemps que tu couvres ces questions-là. C'est la faute aux médecins encore. Penses-tu que les médecins vont s'arranger pour faire échouer le truc encore une fois?
Bien, j'allais dire, en fait, comme Patrick l'a dit, c'est la faute aux élus aussi de ne pas avoir mis les pantalons pour faire en sorte que ça se fasse, que ça se concrétise. Et comme toujours, je dirais dans le cas de Christian Dubé, oui, c'est une bonne nouvelle, on avance, c'est bon, mais il faudra voir parce que, justement, il reste des choses à négocier avec les médecins pour que ça puisse aussi s'appliquer de façon plus large et pas uniquement dans les cliniques d'IPS. Donc, c'est à suivre, là, tu sais. Ça paraît bien, mais il reste encore, comme d'habitude, comme quand on parle, par exemple, des activités médicales particulières pour les médecins spécialistes. T'sais, on dit qu'on y va, oui, il va y avoir une entente, mais ça reste à négocier. Donc, c'est le temps qu'il dira.
Avec les médecins et avec les infirmières aussi, parce que là, évidemment, ben oui. Vous savez, si les infirmières prennent plus de responsabilités, elles veulent être mieux payées, c'est tout à fait logique. Il y a un mécanisme déjà qui est dans l'entente d'une nouvelle convention collective. On ne sait pas encore c'est quoi, là, on vote là-dessus aujourd'hui, mais c'est un mécanisme pour négocier. C'est pas encore fait, donc il y a loin de la coupe aux lèvres, même si techniquement ça devient possible dès la semaine prochaine. Sur le terrain, là, c'est pas, faut encore faire atterrir l'avion, si on veut.
Pis c'est pas dans les GMF, là, c'est juste dans les cliniques IPS, bon, en fait, donc ça, il y en a juste 11, là, c'est ça?
Mais... Techniquement, c'est possible partout, sauf que vu que dans les GMF, l'infirmière relève du médecin, là, il faudrait que les médecins l'accordent, il faudrait qu'ils lui donnent le droit. Tandis que dans les cliniques d'IPS, ben là, elles font ce qu'elles veulent, donc elles peuvent le faire spontanément dès la semaine prochaine.
Mm-hmm. Et vont-elles voir assez de patients? Vont-elles en inscrire assez pour que ça ait un effet sur l'accès? Est-ce que ça va?
Ouais, tout à fait, mais je me place dans la position d'une super infirmière qui a cette autonomie-là. Je me dis, ben écoute, moi, je pense que Je me semble que ces gens-là vont, d'entrée de jeu, prendre plusieurs patients puis décider d'ouvrir leur propre clinique. Ce qui est un danger, par contre, c'est qu'elles ouvrent leur clinique au privé. Si c'est trop compliqué dans le réseau public, ça se peut très bien qu'on ouvre des cliniques au privé. Ça existe déjà, on en voit de plus en plus, des cliniques de super infirmières. Et là, ben c'est tentant, pas de contraintes, plus d'argent, ça peut être tentant.
Cette possibilité... qu'ont les super infirmières de travailler au public et de travailler au privé. Il paraît que ça fait tiquer les médecins, ça.
Bien, parce que pour les médecins, c'est plus compliqué. Il faut se désaffilier, se réaffilier. Donc, c'est plus compliqué pour les médecins. Donc, oui, en effet, c'est peut-être un avantage pour les infirmières que les médecins n'ont pas. Juste pour terminer en disant, le ministre Barrette qui a quand même, tu sais, ouvert la porte aux super infirmières pendant son mandat. Par contre, il avait refusé qu'on leur donne une pleine autonomie comme ça. Et il disait, c'est pas fou, il disait, je veux pas créer un nouveau réseau parallèle. Là, c'est ce qui arrive un petit peu avec ce que M. Dubé annonce aujourd'hui. C'est un nouveau réseau parallèle.
Comme les sages-femmes. Il donnait l'exemple des sages-femmes.
Donc, on va avoir des cliniques d'IPS, en plus des GMF, en plus des CLSC, en plus du GAP, où il faut appeler pour aller voir son médecin, en plus du guichet d'accès à un médecin de famille. Des fois, on sait plus trop où donner de la tête, juste pour aller prendre un rendez-vous.
Il y a tout ça, là. Il y a toutes ces structures-là. Puis des gens comme moi, on n'a pas de médecin de famille, on est 2 millions. Marc-André, là-dessus.
Ben, c'est ça. L'important, en fait, c'est la prise en charge. Hein. Donc, il faut que les Québécois soient pris en charge par des professionnels de la santé, puisque plus on attend, plus chaque citoyen, citoyenne devient un peu une bombe à retardement. On finit tous un jour ou l'autre par avoir des petits bobos. Et plus ils sont pris en charge tôt, mieux les chances de s'en sortir sont là. Donc, c'est vraiment vital, c'est important. Puis sans entrer dans le détail, moi, personnellement, pour une condition de santé, j'étais suivi par un médecin spécialiste à l'hôpital au CHU de Québec. Elle est en congé de maternité. En ce moment, c'est un infirmier praticien spécialisé qui poursuit le suivi. Puis il est très compétent. Je lui fais entièrement confiance. Il peut aussi faire des prescriptions, etc. Donc, C'est un minimum. Autrement, ben là, je serais comme victime d'une espèce de trou de service parce que les médecins sont rares. Donc, je me répète, mais la prise en charge est importante. Là.
Ben, juste pour enchérir là-dessus, quand on se demandait tantôt
si en terminant sur ce sujet,
on se demandait tantôt si les médecins allaient accepter. Je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que le docteur Amiot à la FMOQ dit, depuis son arrivée dans son mandat, il dit, écoutez, il y a juste trop de travail désormais. C'est même plus une question de s'obstiner sur qui prend quoi. Ça déborde de partout, donc on est vraiment... Le paradigme
c'est un peu l'espoir
changer.
Qu'on a
on
tous.
On est ouvert à avoir de l'aide partout où on peut.
Étant donné qu'il y a à boire et à manger, peut'être que ça va
c'est
marcher
plus facile
cette
dans
fois-là.
Ce quand même.
Hey, autre sujet récurrent cette semaine, référendum sectoriel sur l'immigration. Rémi, je veux t'entendre là-dessus. Comment on peut interpréter que le premier ministre, oui, c'est en début de semaine là, qu'il a dit ça, mais qui incroyable, qu'il serait peut-être prêt à faire ça alors que personne ne croit?
Ben c'est ça. C'est que là, on le perçoit tous comme un bluff. Moi, je pense pas qu'il va aller de l'avant et qu'il a vraiment une intention intrinsèque de passer de la parole aux actes. Donc, ça veut dire que c'est une façon pour lui de mettre de la pression sur Justin Trudeau. Justin Trudeau qui a toujours fermé la porte. On s'attend pas du tout à ce que Justin Trudeau donne les pleins pouvoirs en immigration au gouvernement du Québec. Ça n'arrivera pas. Bon, alors là, à ce moment-là, on est plutôt dans l'espèce de partie de bras de fer pour que, par exemple, Ottawa cède à tout le moins, par exemple, que Québec puisse comme pré-approuver, dans le fond, les immigrants temporaires. Et ça serait une façon d'avoir un certain contrôle, pas complet, évidemment. Mais donc, moi, j'ai l'impression que ce langage-là utilisé par M. Legault, c'est juste une façon de mettre de la pression et d'essayer d'aller chercher quelque chose là, pour améliorer la situation à plus court terme.
Petite anecdote, Antoine, la question du référendum. Je parlais à quelqu'un dans mon entourage cette semaine, puis bon, c'est quelqu'un qui suit l'actualité là, d'un œil un peu distrait, puis la personne me disait, bon, fait que François Legault veut faire la souveraineté. Parce que la personne a vu rapidement Legault référendum, l'association se fait tout de suite.
C'était ça la stratégie, c'est d'aller chercher des souverainistes?
Non, je pense pas. Je pense que dans une partie de la population, ça va juste créer de la confusion dans la tête des gens. Ils voient Legault référendum, ça s'arrête là.
Je veux parler de la loi anti-intimidation. C'est Marc-André qui a écrit là-dessus aujourd'hui. Nouvelle loi, là, on veut vraiment, punir ceux qui intimident les élus.
Oui, parce que sur la scène municipale, là, depuis les dernières élections municipales, on parle de tout près de 750 maires ou conseillers municipaux qui ont démissionné en raison du contexte d'incivilité qu'on observe depuis plusieurs années. Tout le monde s'entend pour dire que ça s'est beaucoup exacerbé pendant la pandémie, notamment évidemment sur les réseaux sociaux. Et si le projet de loi que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a déposé cette semaine est adopté là, d'ici... la fin de la session parlementaire, une fois la loi en vigueur, c'est de 500 à 1500 $ d'amende qui pourrait être imposée donc aux citoyens qui menacent ou intimident les élus qui s'en prennent aussi à leur vie privée, etc. Donc c'est quand même intéressant. Maintenant, il reste à voir dans l'application ce que ça va donner. Moi, je pense que ça ouvre la porte à beaucoup de contestations automatiquement, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai vu énormément de réactions négatives là, à la suite de la publication de mon texte.
Mais les réactions sont toujours négatives sur les réseaux sociaux.
Oui, souvent, effectivement, mais bon, chose certaine, c'est que le statu quo ne peut plus durer.
Il fallait faire quelque chose.
Il faut sévir. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le droit dans la société d'insulter, d'injurier un policier, un agent de la paix. Éventuellement, donc, il y aura une infraction pénale dans le cas d'un
élu. Il y a peut-être un risque pour la liberté d'expression?
Ben là, c'est ça, parce que, bon, ce qu'on essaie de... Tu sais, il y a peut-être certains maires dans certaines municipalités qui seront tentés d'utiliser les mécanismes prévus par cette espèce de régime d'injonction pour essayer de faire taire des citoyens fatigants qui vont au conseil municipal semaine après semaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un recours d'intenté, c'est la police... qui va déterminer s'il doit y avoir amende ou pas. Donc, un député, un conseiller municipal, un maire pourrait déposer une plainte, mais c'est ultimement la police qui va décider s'il y a une sanction. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce projet de loi-là s'adresse pas seulement qu'aux élus municipaux, mais aussi aux députés de l'Assemblée nationale qui, dans leur cas, devront faire appel au DGE pour qu'il décide s'il y a lieu de demander à la Sûreté du Québec, par exemple, d'imposer une amende. Et là-dessus, je vous dirais qu'il y a un flou. Donc, le travail en commission parlementaire pour essayer d'éclaircir certaines zones grises sera vraiment important.
On termine par Rémi. Il nous reste très peu de temps. Rémi, un avant-goût de tes pouces en haut et tes pouces en bas dans ta chronique de samedi.
Les sujets qu'on vient d'aborder, donc effectivement, pour Christian Dubé, c'est quand même un bon pas en avant. Pour André Laforêt, c'est bon aussi. Par contre, j'ai trouvé qu'elle avait peiné à expliquer là, l'application, comment ça serait appliqué. Mais bon, mais ceci étant c'est quand même...
Ça mélange, j'ai un mélange des deux.
Oui, un peu, parce que, mais quand même, l'important, c'est que c'est un bon pas en avant. Il fallait faire quelque chose. Paul Saint-Pierre Plamondon, mauvaise semaine pour lui, pour ce qui est du troisième lien. Je vois pas comment il peut souffler le chaud et le froid, puis dire qu'il était... Vraiment, il était sur le fond, il était contre un troisième lien avec des véhicules. Puis là, soudainement, ça va dépendre de ce que la Caisse de dépôt va présenter. Je peux rien exclure. Bon, alors moi,
ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu avec le tramway pendant l'élection partielle dans Ventalon.
Oui, absolument. Exact, oui, c'est ça. Ils ont joué sur le flou.
C'est ça. Donc, ils ont joué sur les deux tableaux pour ce qui est du tramway pendant l'élection de Jean Talon. Ils s'en sont bien tirés malgré tout. Mais là, je pense que là, on voit venir d'avance. Et donc, pour PSPP,
bien,
c'est
je suis obligé de vous arrêter. Oh, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous donne un pouce en haut, en tout cas, pour cette intéressante conversation. Puis on se reprend très bientôt. Donc, Patrick Bellerose, Marc-André Gagnon et leur patron, Rémi Nadeau, le chef. Merci beaucoup. Salut.
Merci à toi.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.